Bien, prenons nos Bibles ensemble et regardons dans Jean, chapitre 7, l'Évangile selon Jean, et le chapitre 7. Et mon texte aujourd'hui se trouve du verset 11 jusqu'au verset 19, et j'ai intitulé ce message « La haine du Christ », c'est-à-dire la haine que des pécheurs ont pour le Seigneur Jésus-Christ. Cela peut sembler un peu flou, parce que quand on parle du Christ, on parle de Dieu, on parle de celui qui est venu pour sauver les pécheurs. Alors, comment est-ce qu'il peut avoir une telle haine pour lui? C'est ce que nous allons étudier ensemble. Maintenant, dans Jean chapitre 7 et le verset 11, c'est écrit « Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il ?» Il faut se rappeler que Christ est venu à la fête des tabernacles. C'était une fête qui était exigée des mâles, parmi les mâles d'Israël, de monter à Jérusalem au moins 3 fois dans l'année pour la fête des Pâques et ensuite pour la fête des tabernacles, comme nous voyons ici. Je dois dire pour la fête de la Pâque, qui était pour célébrer l'agneau immolé, lorsque le Seigneur fait sortir Israël d'Égypte. Alors, toutes ces fêtes avaient leur signification dans la loi comme type du Seigneur Jésus-Christ. Mais les gens qui venaient célébrer ces fêtes ne voyaient pas cette relation entre ces fêtes et la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Christ est notre Pâque. C'est lui qui est cet agneau immolé pour le péché de son peuple. Et c'est par lui que Dieu le Père a délivré son peuple, ses élus, de leur péché. Et c'était une signification très importante. La fête des tabernacles, les enfants d'Israël devaient aller pendant ce temps, c'est comme dans les champs, dans certains pays où il y a les hangars qui sont construits pour protéger les gens pendant la récolte et les protéger du soleil, surtout de la chaleur. Et pendant une semaine, les enfants d'Israël allaient habiter dans leurs champs pendant la récolte. Et ces tabernacles représentaient encore la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre tabernacle. Dieu habitait en lui dans la chair. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il est venu dans la chair et cette chair a habité parmi nous. Donc, c'est une image aussi de la manière que ceux qui appartiennent à Christ, pour qui il est venu dans ce monde, sont en lui. Et c'est lui qui les protège. C'est lui qui est leur avocat. Mais tout cela, les gens ignoraient. Ils venaient à ces fêtes par obligation et surtout pensant par là avoir la bénédiction de Dieu, comme beaucoup aujourd'hui qui font ce qu'ils font dans leur adoration, non pas parce qu'ils connaissent Christ en vérité, mais parce que c'est une obligation. Alors, cette fête des tabernacles est devenue un instrument parmi les dirigeants juifs pour ajouter encore des traditions, des coutumes dont Christ lui-même ne faisait pas part. Rappelons-nous la dernière fois que ses frères, et verset 5 de Jean 7 dit, ses frères qui n'ont pas cru en lui, qui ne croyaient pas en lui. Donc même s'ils étaient de même famille selon la chair de notre Seigneur Jésus, il fallait une œuvre de l'Esprit, de grâce en eux. Parce que nous savons, comme nous avons vu dans Jean chapitre 1 et le verset 12 et 13, que c'est Christ qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et puis c'est écrit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et nous savons que c'est aussi vrai aujourd'hui. Ce n'est pas le fait que nous avons nos familles autour de nous qui fait d'eux maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est une œuvre de la grâce de Dieu. Donc, au départ, même les frères de Christ ne croyaient pas en lui. Ce qui est sûr, plus tard, nous savons que Dieu a fait une œuvre de grâce en eux, parce que nous les trouvons ici dans Actes chapitre 1 et le verset 14, après la résurrection du Seigneur Jésus et son ascension au ciel, c'est écrit « Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et notez, et avec les frères de Jésus. » Nous ne savons pas exactement à quel moment il a pu à Dieu de les attirer à lui, mais au moment où Christ ici est monté à Jérusalem, il n'était pas converti encore. Et ils ont essayé de pousser Christ à monter, sachant que, comme c'est écrit dans le verset 1, les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc, lorsque nous lisons ici dans le verset 11 de notre texte, les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Cela veut dire qu'ils voulaient le faire mourir. Mais il faut dire aussi que c'était une foule mixte, comme nous lisons dans le verset 12. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Et notez bien, les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Et nous pouvons savoir que même aujourd'hui, il y a ces deux attitudes parmi ceux à qui Christ est annoncé. Ça ne doit pas nous étonner que lorsque le Seigneur nous donne l'occasion, même comme ceci, pour annoncer le Christ de la Bible publiquement aux gens, qu'il y ait maintenant une division. Certains diront, c'est un homme de bien. Et je dois dire que la plupart aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le christianisme, c'est leur attitude. Il y a ceux qui se disent chrétiens et pour eux, oui, ils disent, c'est un homme de bien. Et il est venu dans le monde pour faire de bonnes choses. Et d'autres aujourd'hui veulent qu'il continue à faire ses œuvres aujourd'hui à travers les miracles et autres choses. Ils cherchent des signes. Et si on leur demandait, ils diront, oui, effectivement, Jésus-Christ est un homme de bien. Pourtant, il y a d'autres qui disent, non, il égare la multitude. Et lorsque je vois ceci, il égare la multitude, je pense au fait de prêcher Christ dans toute la vérité, dans toute sa gloire. Il y a un Jésus qui est prêché aujourd'hui que les gens aiment. Et ils imaginent qu'il est comme leur serviteur pour faire d'eux comme ils veulent. Donc, ils demandent et voilà, ils reçoivent. Beaucoup C'est pourquoi il se donne à la prière, parce qu'ils imaginent que non, Christ est un homme de bien, donc si nous demandons assez, il va nous donner ce que nous voulons. Et voilà pourquoi beaucoup cherchaient le Christ, comme nous avons déjà vu dans Jean chapitre 6. Non pas seulement à cause des miracles, mais parce qu'il multipliait le pain. Donc un homme de bien. Pourtant d'autres, ils disaient non, il égale la multitude. Et j'ai trouvé ça depuis que Dieu a révélé Christ en moi et que j'annonce ce Christ de la Bible. Il y a des gens qui se plaignent, qui disent non, mais tu portes division dans l'Église, selon eux. Et quelle est la raison? Ce n'est pas parce que je prêche d'une manière à vouloir offenser qui que ce soit, mais l'Évangile est une offense. C'est l'Évangile qui scandalise. C'est ce Christ à qui donne toute la gloire, la Bible donne toute la gloire, que, qui égare les multitudes, qui porte division. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça soit ainsi aujourd'hui. C'était comme ça au jour de Christ. Rappelons-nous de ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 22. Il y avait toutes sortes d'opinions au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et Christ, quand les pharisiens sont venus, dans le verset 41, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? Voilà la question que nous devons poser à qui que ce soit qui demande, que pensez-vous du Christ? D'ailleurs, qui est le Christ de la Bible? Il ne suffit pas simplement que quelqu'un professe de connaître le Christ, mais que pensez-vous du Christ? Le titre de cette étude, c'est la haine du Christ. Il y a des prédicateurs qui prêchent d'une manière à garder la paix. Les prédicateurs ne veulent pas de division dans leur milieu. Donc, ils prêchent Christ d'une manière à attirer les gens davantage et non pas refouler. Mais Christ annonçait seulement la vérité. Il disait la vérité au sujet de lui-même. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Donc, vous voyez la réponse dans Matthieu 22, 42. Il lui répondit, de David. Encore, un homme de bien et quelqu'un qui devait venir selon ce que Dieu a dit à David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Voilà ce que les gens ne veulent pas du Christ. Ils acceptent qu'il est venu selon les prophéties de l'Ancien Testament et ce qui était annoncé à David, mais ce qui scandalise, c'est qu'il est le Seigneur. Là encore, il y a des gens qui disent que Christ est Dieu dans la chair. Ils annoncent ça avec force, mais quand il s'agit de croire qu'il agit en tant que Dieu, cela veut dire souverainement, et qu'il sauve qui il veut, quand il veut, comment il veut. Alors voilà, les gens sont refoulés, mais le sens d'être le Seigneur ou Dieu signifie qu'il est juge et qu'il sauve qu'il veut, il endurcit qu'il veut. Ah, voilà maintenant un Christ qui suscite la haine. La haine est déjà là. Mais en entendant un tel Christ prêcher, les gens sont refoulés. Et Christ dit ici dans Matthieu 22, 45, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Il était en même temps fils de David, selon les prophéties, donc un homme, et de cette lignée de royauté de David, Christ est venu pour être le roi, pas comme les gens imaginaient à Jérusalem, mais un roi qui régnait sur un peuple spirituel, un royaume spirituel qu'il devrait racheter par son sang, mais en même temps, donc Seigneur, fils de David et Seigneur. Et c'est écrit verset 46, nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Telle était la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, revenons dans notre texte, dans Jean 7, et le verset 12. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui et notait bien par crainte des Juifs. Alors voilà encore une troisième catégorie de gens, comme aujourd'hui. Il y en a qui pensent de bien de lui. Il y en a qui disent, non, il égare la multitude. Et puis, il y en a qui veulent bien comprendre plus à son sujet. Je trouve ça quand je prêche ce message de Christ dans toute sa souveraineté et sa gloire. Il y en a qui s'approchent de moi, mais en quelque sorte en secret. Ils m'écrivent ou bien ils m'appellent et ils disent, oui, je suis en train de vous écoutez, et j'apprécie bien le message, mais, quand ils disent mais, le mais, souvent, est que le pasteur n'est pas d'accord. Ou bien, ils sont dans une assemblée qui n'acceptait jamais un tel message. Et donc, par crainte des Juifs, ici, il s'agit par crainte de leurs dirigeants, ils se taisent. Il ne peut pas parler librement de lui. Quand je rencontre des gens qui sont dans des assemblées où ce message de l'évangile n'est pas clairement annoncé, ou bien je dois dire, pas annoncé de tout, parce que si ce n'est pas clairement annoncé, ce n'est pas annoncé de tout, mais ils sont dans ces assemblées depuis longtemps et ils me disent, non, mais dans notre assemblée, c'est pas un problème. Notre pasteur prêche Christ et peut-être qu'il ne prêche pas exactement comme tu le prêches, mais il, quand même, il, c'est un prédicateur de Christ. Et c'est là que je leur dis, mais combien de gens dans cette assemblée, même votre pasteur, savent ce que tu dis? En ce qui concerne Christ, qui il est et pourquoi il est venu et ce qu'il a accompli en venant dans ce monde. Combien de gens savent réellement ce que tu crois ou bien ce que tu dis croire? Parce que si tu commences à contredire ce message qui vient de du prédicateur, du pasteur, et tu commences à insister dans les études bibliques ou les écoles de dimanche, lorsque les passages de la Bible sont lus, et tu commences à poser des questions, à savoir qui est Christ. Est-ce qu'il est le Seigneur ou bien est-ce qu'il est un simple homme? Qu'en est-il de la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu lui-même, c'est le salut vient de lui seul ou bien ça dépend en quelque sorte du libre arbitre de l'homme, du choix de l'homme, comme une coopération entre Dieu et les hommes. Est-ce que lorsque Christ est mort sur la croix, pose la question, quand on est en train de parler de du Christ de la Bible. Est-ce que lorsqu'il est mort sur la croix, c'était pour essayer de sauver tous les hommes et femmes du monde entier, tous les individus du monde sans exception? Ou bien est-ce que il est mort pour ceux que le Père lui a donnés? Et c'est en posant ces questions, vous allez voir, la haine va sortir. Ce n'est pas seulement que les gens ignorent ce Christ de la Bible, même dans ces milieux où Christ est, selon eux, prêché. Ils appellent ça des assemblées chrétiennes. Mais partout où les gens professent ce nom, posent ces questions pour savoir réellement ce qui est dans leur cœur, et vous verrez que ils ont de la haine pour un tel Christ. Ils peuvent supporter un Christ qui dépend de leur décision, mais ils ne peuvent pas supporter ce Christ qui est souverain en tout ce qu'il fait. On peut peut-être demander pourquoi, dans Jean chapitre 3 et le verset 19, nous avons la réponse. Nous n'avons pas besoin d'aller loin pour savoir la raison qu'il y a cette haine du Christ et cette crainte des hommes. C'est écrit dans le verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, cela nous montre déjà que dans le cœur, déjà, c'est un cœur mauvais, c'est un cœur déchu, et cela de par Adam, nous avons hérité cette nature d'Adam, comme Adam a désobéi. Il a plongé toute sa race dans un monde de condamnation et de culpabilité à cause de son péché. Nous sommes nés dans ce monde avec cette même nature parce que nos œuvres sont mauvaises. Donc, c'est pourquoi nous préférons les ténèbres à la lumière. Et vous remarquerez dans Jean 3, 19, c'est appelé un jugement. Le fait que Dieu laisse des pécheurs, quoi qu'ils soient encore vivants, quoi qu'ils soient en train d'aller dans leur lieu de culte et lire cette même parole et entendre prêcher du salut et du Christ, néanmoins, le jugement que Dieu rend, c'est qu'il les laisse dans ces ténèbres, parce que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Les gens préfèrent à continuer dans leur tradition, leur coutume, que de venir à cette lumière qui donne toute la gloire à Christ. Et c'est pourquoi Jean 3, verset 20 dit « Car quiconque fait le mal est la lumière. » Voilà la haine du Christ. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Les gens préfèrent aller même à la condamnation croyant que leur décision, leur choix, a quelque chose à faire concernant le salut et non pas la volonté de Dieu, non pas l'œuvre de Christ seul à l'égard des pécheurs. Et c'est écrit, verset 21, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Il y en a en qui Dieu, par son esprit, met cette grâce pour venir à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors pourquoi, voilà pourquoi il y a cette haine du Christ. C'est parce que leur cœur est mauvais. et ils sont nés dans cet état. Alors revenons dans notre texte dans Jean chapitre 7, à partir du verset 11, ce que nous sommes en train de lire, et nous voyons ici ces trois catégories de gens. Ceux qui disaient qu'il était un homme de bien, d'autres qui disaient que non, il égare la multitude, et puis cette troisième catégorie ici, ceux qui ne parlaient pas librement de lui par crainte des Juifs. Mais ce que nous voyons ici, c'est que quelle que soit l'attitude des hommes concernant le Seigneur Jésus-Christ, rien ne l'empêchait de prêcher ou bien d'accomplir l'œuvre que le Père lui a donnée. C'est écrit vers le milieu de la fête, dans le verset 14. Jésus monta au temple et il enseignait au milieu de la fête. Cela signifie peut-être le quatrième jour de la fête. C'était une fête qui durait au moins une semaine, 8 jours exactement. Donc, au milieu de cette fête, au moment voulu par Christ, et non selon les dires de ses frères, il est venu et il enseignait. C'est écrit dans le verset 15, les Juifs s'étonnaient de son enseignement, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié, c'est-à-dire qui n'a point étudié dans leurs écoles. Ils étaient étonnés de la manière que Christ parlait. Et nous savons dans d'autres parties des Écritures que Christ parlait avec grâce. Il parlait des paroles de grâce pour ceux qu'il est venu sauver, mais aussi il enseignait avec autorité. Et il, dans son enseignement, enseignait d'une manière que les gens s'étonnaient, parce qu'il n'avait jamais fréquenté, assisté aucune de leurs écoles qu'ils avaient pour former d'autres dirigeants. Alors comment Christ a pu connaître les Écritures de cette manière? C'est parce que c'est lui l'auteur. Je sais que nous sommes en train d'étudier l'Évangile selon Jean, mais en fait, Jean n'est pas l'auteur de ce que nous sommes en train de lire, c'est Christ. Ce qui concerne Christ est dirigé par son esprit, et c'est ce que nous sommes en train de lire ici. Jean n'était que l'écrivain, il était celui qui mettait ses mots sur les parchements, mais c'est Christ qui est l'auteur, et donc ça ne doit pas nous étonner. Même à l'âge de 12 ans, il était dans le temple en train d'entretenir les dirigeants et ces pharisiens, ces scribes au sujet de la loi. Ils étaient étonnés qu'à l'âge de 12 ans, ils savaient ce qu'ils savaient, mais c'est parce que ces écritures viennent de lui et concernent le Christ que nous sommes en train d'étudier. C'est pourquoi je peux savoir en quelque sorte, si un prédicateur est enseigné de Dieu ou pas. S'il est en train de prêcher Christ à travers ses Écritures, du début jusqu'à la fin, donc j'ai l'espoir qu'un tel prédicateur a été ou bien est enseigné de Dieu, comme dans mon cas. Il y avait un temps où je suis allé dans les écoles pour sortir diplômé, pour aller prêcher la parole, mais j'ignorais le Christ de la Bible. J'ignorais qui était la parole de cette parole. Et maintenant, comme Christ, il se levait pour enseigner. Qu'est-ce qu'il enseignait? Il prenait les Écritures et il n'était pas en train de prêcher la loi comme les pharisiens faisaient. Non, il était en train de prendre ces Écritures et annoncer comment ces Écritures devaient trouver leur accomplissement en lui. Nous savons que c'était la manière de son enseignement. Et si vous voulez vérifier cela, prenez le temps de lire les 4 évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et notez seulement chaque fois que Christ prêchait quel était le sujet de sa prédication. C'est le même sujet de ceux qui sont suscités pour prêcher l'évangile aujourd'hui. Ça concerne qui est Christ et pourquoi il est venu dans le monde et ce qu'il a accompli en venant dans le monde et pour qui son œuvre a été achevée et où il est maintenant. Voilà les 5 aspects de son enseignement que tout prédicateur de l'évangile aujourd'hui prêche. Et dans Luc chapitre 24, nous savons que tel était le cas. Si nous voulons savoir ce que Christ enseignait et comment cela étonnait les gens, comment ils pouvaient connaître les Écritures, lui qui n'a point étudié dans leurs écoles, dans Luc 24 et le verset 25, lorsque, après sa résurrection, Christ marchait sur cette voie d'Emmaüs avec quelques-uns de ses disciples qui ne le reconnaissaient pas encore, parce que leurs yeux n'étaient pas encore ouverts. Verset 25, Luc 24, « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit des prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Alors, quel est le sujet de la loi? Ça concerne une loi que l'homme ne pouvait jamais obéir, mais que Christ lui-même est venu obéir dans tous ses préceptes. Mais non seulement obéir à cette loi, mais de souffrir la peine pour ceux qui ont désobéi la loi, la peine, c'est la mort. Et après d'entrer dans sa gloire, ayant achevé, accompli ce que Dieu le Père lui a envoyé accomplir, je dois dire que s'il a donné sa vie pour tous les êtres humains, pourtant, en fin de compte, tous les êtres humains ne sont pas sauvés. Donc, Christ ne pouvait pas entrer dans sa gloire. Il faut dire qu'il a fait échec s'il est venu dans le but de sauver tous les êtres humains, mais tous ne sont pas sauvés. À quoi sert alors sa mort, si ce n'est pas un échec? Non, ici, il est venu souffrir ces choses et entrer dans sa gloire. Cela me dit que chacun pour qui Christ a versé son sang alors est sauvé, justifié, pardonné, là à la croix. Et c'est pourquoi Dieu envoie maintenant son esprit dans les cœurs de ceux-là, c'est pas tous les hommes, mais ceux-là que Christ a rachetés afin de les amener appelés à lui. Et verset 27 de Luc 24 dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, notez bien, pas dans quelques écritures seulement. Il y en a qui peuvent aller sauter ici, sauter là, et dire, ah voilà, il s'agit du Christ ici, ou bien il s'agit du Christ là. Pourtant, Ici, c'est écrit, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Et je crois bien que c'est ce que Christ fait ici dans notre texte. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Il les connaît parce que c'est lui qui est la parole. Et Jésus leur répondit dans le verset 16, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Le Christ met sur le même plan ici sa doctrine et les Écritures. Les Écritures sont la doctrine de Christ. Et la doctrine de Christ est ce que les Écritures enseignent de lui. Sa doctrine n'est pas de moi. On peut dire que Christ n'est pas venu ici comme un simple homme. Christ dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ouais. Ce que Christ dit ici, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et puis ça continue, verset 39, « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. » Voilà encore l'œuvre efficace de Christ. Il n'a pas versé son sang pour des hommes qui finiront dans la perdition, non. La volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté du Père, c'est qu'il ne perde rien de tout ce que le Père lui a donné. Voilà ce que c'est de prêcher pour la gloire de Dieu. Et c'est écrit verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Cet ordre est très important. D'abord, voir le Fils avec des yeux que l'Esprit donne et croire en lui. Ça, c'est le résultat. Comment est-ce que nous pouvons savoir que les yeux d'un pécheur sont ouverts envers Christ? Il croit en lui tel qu'il est dans les Écritures. Et c'est écrit, c'est la volonté du Père que cela ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Mais voyez, même dans ce contexte corinthien, voilà la haine du Christ, la haine des hommes qui professent être enfants de Dieu, pourtant détestent un message qui lui donne toute la gloire. Verset 41 de Jean 6, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Christ, en prêchant sa doctrine, prêchait aussi son autorité de sauver qui il veut. Et c'est pourquoi dans Jean 7, dans mon texte, en revenant, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Maintenant, nous sommes en train de voir le point clé de cette haine contre le Christ. C'est parce que les hommes veulent partager la gloire. C'est pourquoi cet enseignement aujourd'hui que Dieu a fait ce qu'il veut, mais il attend ce que l'homme maintenant accepte et ensemble maintenant, ils peuvent être sauvés. Non. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Comment est-ce que nous sommes justifiés devant Dieu? C'est par l'œuvre du Christ qu'il est venu accomplir à l'égard. Autrement, personne ne peut être sauvé, mais si nous sommes sauvés, c'est parce que Christ a accompli leur salut à l'égard ou bien pour la gloire de son Père en toutes choses. Et c'est ainsi que nous pouvons savoir celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Si quelqu'un veut faire sa volonté, ce n'est pas d'aller courir et œuvrer et s'efforcer à obéir à cette loi. Cette loi ne fait que condamner tout ce qui n'est pas parfait. Mais si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Ceux qui font la volonté de Dieu par l'Esprit de Dieu sont venus à Christ et l'embrassent de tout cœur tel qu'il est révélé dans les Écritures. Mais ça prend l'Esprit de Dieu d'ouvrir leurs yeux. Autrement, les gens vont se contenter à continuer dans leur ténèbre tout en haïssant un tel Christ, préférant ce que les hommes leur ont enseigné et mettant leur confiance dans la chair que de mettre cette confiance en Christ seul. Nous allons nous arrêter là, le point dans le verset 19 qui démontre leur hypocrisie. C'est parce que ces hommes disaient qu'ils étaient en train d'obéir à la loi et que c'était Christ qui était le problème. Voilà la haine du Christ. C'est de blâmer Christ et c'est de se justifier soi-même. Quelle contradiction. Mais le verset 19, Christ a utilisé cette même loi que les gens disaient qu'ils suivaient pour les condamner. Il dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi il dit cela? C'est parce qu'il voulait le faire mourir. Pourtant, le sixième commandement de la loi disait que vous ne tuerez point un homme. Pourtant, ils cherchaient à faire mourir Christ tout en disant qu'ils observaient la loi. Et c'est pourquoi il leur pose la question, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Je crois que ça, c'est un très bon principe d'enseignement, même pour nous. Quand nous sommes en face des gens qui se glorifient dans leurs efforts à obéir à cette loi, quand nous sommes en face de tels gens, nous devons emmener toute la force de la loi contre cela. C'est ce que Christ faisait dans Matthieu chapitre 5, à des gens qui disaient, non, mais nous ne sommes pas des meurtriers. Et Christ leur a dit, selon la loi, ce n'est pas seulement la lettre de la loi qu'il faut obéir, mais l'esprit de la loi. Et si quelqu'un a de la haine pour quelqu'un, c'est comme si vous l'avez tué dans votre cœur, et la loi condamne cela. Alors, qui peut se tenir devant cette loi? Parce que ça juge non seulement ce que nous disons, mais ce que nous faisons, mais ce que nous pensons. Ou bien dire de ne pas commettre l'adultère. Beaucoup de ceux-là pouvaient dire, ah, mais je n'ai jamais touché la femme de l'autrui. Mais Christ dit, si un homme regarde une femme pour convoiter cette femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Alors, qui peut dire qu'il n'est pas adultère? C'est pourquoi il n'y a aucun espoir en ce que nous pouvons faire ou chercher à faire pour accomplir cette loi. C'est pourquoi Christ est venu. Dans Galates, je vais terminer avec cela, chapitre 2, et le dernier verset du chapitre 2, Paul fait cette déclaration. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Ceux qui ont de la haine du Christ rejettent la grâce de Dieu parce que la grâce de Dieu est en lui. Le mot grâce veut dire faveur de Dieu sans condition, sans dépendre des œuvres des hommes. C'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Qui il est et ce qu'il a accompli. Et puis il continue, car si la justice s'obtient par la loi, par les efforts d'obéir à la loi, par une obéissance personnelle à la loi. Notez bien, Christ est donc mort en vain. Vous faites de la mort de Christ la vanité. Voilà l'importance de ce sujet. Soit le salut est du Christ, est Christ seul, ou bien il n'y a pas de salut. Donc ceux qui détestent ce message qui donne Christ toute, à Christ toute la gloire, ceux qui détestent la grâce de Dieu. Mais cette grâce est sans mélange, sans mixture de la part de l'homme. C'est de Dieu et de Dieu seul. Alors que le Seigneur daigne bénir ses paroles à la gloire de son Fils. Amen.